un coin de la vie de misère. Antoine Mathieu. Chapitre 7. Plus tard, le jeu, le cabaret et les filles occupèrent tour à tour les rares loisirs que le labeur continu laissait à Antoine. Le jeu est un attrait puissant pour certains esprits, des plus cultivés, auxquels la vie, accomplissant leurs désirs avant qu'ils soient formulés, n'offre que des complaisances. Combien ne doit-il pas attirer davantage les ignorants et les misérables ? Pour ces derniers, le jeu est comme le rêve en action. De leurs efforts quotidiens, ils ne peuvent attendre que l'apaisement incomplet des besoins physiques les plus impérieux. Aucune perspective n'est au bout. À qui confieraient-ils leurs espérances, si ce n'est au hasard ? Le hasard seul est assez puissant pour produire une amélioration de leur sort, pour réaliser les désirs secrets qui remuent leur lente cervelle dans les nuits d'insomnie. Partout où ils croiront le rencontrer, ils courront au-devant de lui. Les femmes mettront des chandelles aux vierges, feront des neuvaines, accompliront des pèlerinages. Les hommes se précipiteront au jeu. Des deux parts, ce sont les pouvoirs occultes et mystérieux qui sont invoqués. Le jeu n'est qu'une des formes de la crédulité superstitieuse. Membre du Jockey Club et mendiant en haillons, l'un et l'autre, devant la roulette, croient à une divinité cachée, tournant avec le plateau. Les mineurs, plus que tous autres ouvriers peut-être, sont enclins au jeu. Les bures silencieuses appellent les rêves, les conservent et les développent. Le dimanche, les houilleurs se réunissent dans les cabarets des faubourgs et jouent aux quilles. Ils emploient de grosses boules dont le maniement exige de la force et de l'adresse, ce qui multiplie l'attraction. La fortune rend heureux, à double titre, celui qu'elle favorise. Il s'enorgueillit de son habileté en même temps que de sa chance. Les parties commencent généralement d'une façon modérée. Elles sont longues et l'enjeu est faible. Mais bientôt, l'impatience arrive, la fièvre s'allume. Les sommes engagées augmentent et se mettent sur des coups isolés, autour desquels des paris s'échangent. Groupés à l'une des extrémités de la bande étroite de terrain aplani, les joueurs épient les mouvements de celui qui doit lancer la boule. La boule part. Ils la suivent des yeux en se courbant. Elle bondit et tombe au milieu des quilles qu'elle abat. Ce ne sont qu'exclamations et cris. Chacun commente le coup, le loue ou le blâme. Ces hommes sont en liesse. Leur pouls bat à pulsations précipitées. Leurs regards brillent. Entre eux, l'âge n'amène point de différence. Chez les plus jeunes et chez les plus vieux, l'émotion est la même, intense, absorbante. Antoine connut ses agitations comme il connut les troubles de l'ivresse. La première fois qu'il se prit à boire, ce fut moins par goût du genièvre que par imitation et par désir d'agir comme un homme. À 17 ans, on tire vanité en bas d'avoir été saoul, comme on se vante en haut d'avoir été gris. Les termes seuls diffèrent. La fanfaronnade du vice, à l'époque de la jeunesse, est la même à tous les degrés de l'échelle sociale. Plus tard, le goût vint, mais il n'entraîna jamais cependant, pour Antoine, une habitude invétérée de boire. D'ailleurs, chez lui, comme chez la plupart de ses compagnons, l'envie de genièvre n'apparaissait qu'au moment de la paix, qui s'effectuait toutes les quinzaines. Depuis plusieurs jours, les poches sont vides. On a eu soif, une soif ordinaire, légitime. On a pu la satisfaire. Elle va se montrer ardente, impérieuse, inextinguible. Le salaire est impatiemment attendu. Aussitôt reçu et compté, on se rue vers les cabarets qui s'échelonnent devant les portes de la houillère. Des échoppes se trouvent auprès, étalant des boudins, des saucisses, du foie de cheval, dont une grande tranche, saupoudrée de sel, frottée de moutarde, s'obtient pour 5 centimes. Les boudins ne sont pas frais, le foie est dur, mais c'est de la viande, la chose rare. Chacun prend, pour 2 ou 3 sous, un morceau quelconque qu'il mange gloutonnement. Puis, vite, au tourné. Les vers succèdent aux vers. On ne parle point. Le besoin de parler ne se sent pas. On veut boire. En 30 minutes, l'ivresse pesante arrive. L'appétence a été trop forte. La bête qui a été malmenée se venge. Peu nombreux sont ceux qui peuvent lui résister. Combien, parmi les prêcheurs de sobriété, au ventre tranquille et au gosier content, résisteraient s'ils passaient par une pareille période d'abstinence? La curiosité de l'ivresse n'est point la seule qui hanta l'imagination d'Antoine. Il en est une autre, plus alléchante, celle des sens, qu'il éprouva vivement. Elle s'éveille de bonne heure chez les gens du peuple. Les révélations qu'amène la vie commune, les spectacles auxquels on assiste, les embrassements des chambres voisines qui s'entendent à travers les cloisons minces, tout contribue à l'exciter. Les filles la ressentent autant que les garçons. Les soirs de printemps, les uns et les autres vont s'asseoir ensemble sur les bancs des quais et des boulevards. L'air est doux, ils se rappellent délicieusement les frissons que les logis froids leur donnaient l'hiver. L'atmosphère ambiante pénètre peu à peu leurs veines et détend leurs muscles. Ils s'y amollissent, les corps se rapprochent. Dans la nuit qui tombe, les sens jettent leurs cris d'appel. De grands coups de coude s'échangent, des rires étouffés bruissent. Les mains s'égarent, la peau s'irrite, on se déniaise. Mais les lourdes joies de l'ivresse et les exaltations passagères que donnent des caresses de femmes faciles ne sont point faites pour désabêtir la cervelle d'un homme chez lequel les muscles seuls travaillent.